C'est par là que le mal arrive, ne l'oubliez pas. C'est par là qu'un élevage commence à déconner, par la sphère urogénitale. Elle défèque ainsi sur le bord de l'allée, dans la rigole d'évacuation, des monceaux noirs et puants que les hommes doivent récurer le plus souvent possible, pour éviter qu'elles ne s'y affalent et ne contractent des infections, ou que les porcelets ne naissent dans les déjections de leur mère, eux qui, au terme d'un long travail de sélection, viennent au monde sans plus de défenses immunitaires, exempts d'organismes pathogènes spécifiques, donc modifiés, Henri préfère dire optimisés, pour n'être pas porteurs de ces germes naturellement présents chez le porc, mais qui, dans l'univers concentrationnaire de la porcherie, seraient susceptibles d'être à l'origine d'une épidémie. Joël a déjà vu les porcelets se traîner à terre, l'abdomen ou le crâne à demi dévoré par les vers qui ont éclos des œufs que ne cessent jamais de pondre les mouches. Alors lui et Serge remplissent à tour de bras des brouettées de merde qu'ils déversent dans la gueule insatiable de la fosse à purin, et ils passent les truies à la pompe à eau et au désinfectant avant qu'elles expulsent leurs petits pour les débarrasser des germes qui les souillent continuellement, inévitablement, et souillent leurs mamelles qui contamineront les porcelets à leur tour. Car tout, dans le monde clos et puant de la porcherie, n'est qu'une immense infection, patiemment contenue et contrôlée par les hommes, jusqu'aux carcasses que l'abattoir régurgite dans les supermarchés, même lavées à l'eau de Javel et débitées en tranches roses, puis emballées avec du cellophane sur des barquettes de polystyrène d'un blanc immaculé, et qui portent l'invisible souillure de la porcherie, d'infimes traces de merde, les germes et bactéries contre lesquels ils mènent un combat qu'ils savent pourtant perdu d'avance, avec leurs petites armes de guerre, jets à haute pression, Crésil, désinfectant pour les truies, désinfectant pour les plaies, vermifuge, vaccin contre la grippe, vaccin contre la parvovirose, vaccin contre le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin, vaccin contre le circovirus, injection de fer, injection d'antibiotiques, injection de vitamines, injection de minéraux, injection d'hormones de croissance, administration de compléments alimentaires, tout cela pour pallier leurs carences et leurs déficiences, volontairement créées de la main de l'homme.
Jean-Baptiste Delhamo, ce titre, Règne animal, comment l'entendez-vous? Parce que c'est surtout des hommes qu'il s'agit, et puis, à la lecture, on a l'impression que ces hommes ne sont pas beaucoup plus libres que les animaux qu'ils élèvent.
Je l'entends comme un questionnement sur ce qui nous différencie du règne animal. Bien souvent, on a la certitude que nous n'en faisons pas partie, que nous ne sommes pas des animaux. Et que finalement, la sauvagerie, avec tout ce qu'elle comporte de violence, est le domaine réservé des bêtes. Or, dans règne animal, si la violence existe dans le monde des animaux, dans ce monde que l'on a tendance à considérer presque comme un univers parallèle, elle est avant tout, dans ce texte-là, le fait des hommes. Donc effectivement, il y a cette question sous-jacente de notre lien avec le monde animal. Et de la véritable sauvagerie, qui, je crois, est plus du domaine des hommes que de celui des bêtes.
Vous avez choisi une ferme, un élevage porcin, à deux époques différentes, sans doute aussi pour mettre en correspondance deux manières de procéder, deux usages de l'agriculture. C'est la même famille. En 1981, ce sont les héritiers. Et en 1914, le début de cette, enfin, la continuation de cet élevage et l'arrivée soudaine de la guerre. Vous souhaitez donc mettre en correspondance deux attitudes face à l'élevage, c'était votre intention?
Pas véritablement, en tout cas, ça n'était pas l'intention première. J'ai toujours pensé, à mesure que j'écrivais ce livre, que l'élevage était plus une toile de fond, une métaphore finalement filée de la folie des hommes, et avant tout, la trame principale pour moi était l'histoire d'une famille à travers un siècle. Et un moyen de questionner la transmission de la violence. Cependant, en décrivant ce rapport avec les animaux que les hommes élèvent. Il m'est apparu aussi intéressant et pertinent de traiter de la manière dont l'industrialisation a conduit l'élevage à une forme de violence singulière, alors qu'en parallèle, cette famille devenait de plus en plus dysfonctionnelle, elle aussi. Et effectivement, vous le disiez tout à l'heure, dans cette époque contemporaine et dans le cadre de la porcherie industrielle, les hommes ne sont pas uniquement des bourreaux, sont aussi des victimes comme comme les animaux qu'ils élèvent.
Parce que le lecteur va faire la correspondance forcément avec entre ces deux époques-là, 1914 et 1980. Il y a deux parties vraiment dans le texte. On commence par 1914, on termine par 1980. Et on a l'impression de passer de la misère matérielle, 1914, à la misère des sentiments, en 1980. C'est un père qui a ses deux fils. L'un a une femme qui est en train de devenir folle, qui a deux enfants, dont un qui est peut-être un peu déficient aussi, qui a 10 ans. Et cette pauvreté affective du père, alors que bon, ils vivent quand même dans un train de vie qui est confortable, mais il y a une misère, oui, des sentiments, affectifs et bien entendu aussi intellectuels.
Dans la première époque, les sentiments sont aussi relativement âpres, arides. Il y a quand même voilà, un lien assez dur, notamment qui lie Éléonore avec sa mère, la génitrice. Mais toujours est-il que dans cette idée de questionner la transmission de la violence, cette violence qui va finalement culminer dans le dernier de la lignée, qui est cet enfant effectivement mutique, assez étrange, qui entretient un lien assez singulier avec la nature qui l'entoure. Il me semblait intéressant de montrer de quelle manière est-ce que ces personnages à l'époque contemporaine sont prisonniers de déterminismes, qui sont des déterminismes sociaux, familiaux, mais aussi d'un héritage. Et d'un héritage tacite qui est cet héritage de la violence, qui a été transmis notamment par l'ancêtre, qui est ce personnage de Marcel, qui est envoyé au front, qui va revenir défiguré et hanté par une souffrance physique et puis morale aussi, bien sûr, hanté par les images du front et par toute cette violence primitive. Et donc, effectivement, cet héritage-là va se transmettre, va se répercuter de génération en génération jusqu'à gangréner les liens affectifs et familiaux et faire de cette famille un clan qui est quasi reclus, qui vit sur ses acquis, en particulier ses acquis, cet élevage qui s'est développé, qui a prospéré, mais qui néanmoins va être. Aussi déstabilisé par l'apparition d'une épidémie et qui va signer à la fois l'effondrement du clan, de la famille et de l'entreprise familiale.
Effectivement, en 1980, cette famille n'est pas tant soudée que ça. Il y a donc Henri, le père, le patriarche, qui est malade, qui est sans doute aussi en train de mourir d'un cancer. Il a ses deux fils, Serge et Joël, Serge étant l'aîné, Serge étant le préféré du père, celui qui accepte, et Joël étant peut-être le fils le plus faible, qui est contraint, forcé par tradition familiale de s'occuper lui aussi de la ferme, mais que cela dégoûte. Et juste lire ce bref passage où Joël, vous exprimez cela pour Joël. Et sans doute est-ce ici, à cet instant de l'enfance, que leur différence s'est affirmée, dans cette obstination de l'un à engloutir la viande des porcs, à assimiler littéralement leurs conditions et l'existence de la porcherie, et cette réticence de l'autre, cette répulsion viscérale. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis posé cette question, pourquoi Jean-Baptiste Delamo écrire un livre sur ce qui vous dégoûte tant, où vous incarnez peut-être presque la figure de Joël?
Parce que je pense que la littérature, c'est un médium qui, justement, doit nous amener à questionner des obsessions, mais aussi des zones d'ombre, et qui nous offre aussi l'opportunité d'aller vers ce qui nous répugne. Donc, y a cette idée-là de se mettre soi-même aussi en danger au temps de l'écriture. Cela étant, sur la question très précise de la viande, mon questionnement par ailleurs politique et militant sur la condition animale s'est développé en parallèle de l'écriture de Règne animal. D'ailleurs, c'est une visite d'élevage intensif qui a été à l'origine de ce texte-là, en partie du moins. Donc, au moment de l'écriture, finalement, se sont télescopés à la fois des questionnements d'ordre éthique, personnel, et puis la fiction, le désir d'écrire un roman, une histoire qui entraîne le lecteur dans un univers, etc. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve, je crois, même si ça n'est pas un texte, je tiens beaucoup à insister là-dessus, mais ça n'est pas un texte prosélyte ou militant. C'est sans doute un texte engagé, mais comme doit l'être tout roman, dans la mesure où, dans le sens où on s'engage dans l'écriture, dans la fiction, on donne de soi. Mais en revanche, j'ai quand même voulu éviter de verser dans le prêt-à-penser. Et je crois que si la force de subversion de la littérature, elle tient justement au fait qu'elle nous déstabilise, mais elle nous rend quelque part une forme de libre arbitre, elle nous laisse seul juge face au livre, face à l'histoire, face à la narration.
Vous voulez dire, Jean-Baptiste Delameau, que c'est en écrivant ce livre, en vous documentant également, parce que c'est extraordinairement précis, le vocabulaire aussi, les visions que font suggérer ce texte, que c'est par cette écriture-là que votre manière de penser l'élevage intensif a été modifiée et où ça a basculé chez vous vers ne pas manger de viande et être militant et actif pour cette cause?
Ça a été un mélange de choses. Déjà, effectivement, la visite de cet élevage, où soudain, en me retrouvant face à ces animaux qui étaient entassés dans un bâtiment d'engraissage, j'ai compris qu'ils ne formaient pas une masse indistincte d'individus qui ne seraient que la déclinaison de leur prochain, finalement. On a souvent cette impression-là quand on voit, je sais pas moi, un pré avec des vaches. Ce qu'on voit sont des vaches. Voilà, comme si finalement ça ne formait qu'une seule entité. Et là, dans cette porcherie, en particulier parce que c'était le petit matin, que le bâtiment était encore obscur, de voir ces animaux à la peau pâle, avec un regard très, très présent, un œil très blanc. Il s'est passé quelque chose, j'ai compris que ça n'était pas justement cette masse indifférenciée, mais que c'était véritablement des individus, que c'était des soi, avec une expérience subjective du monde et de l'instant, comme moi je pouvais l'avoir face à eux. Et c'est véritablement là qu'il y a une forme de vérité qui a été, ou de réalité qui a été dévoilée pour moi. Même si auparavant je me questionnais déjà, notamment sur l'impact écologique de l'élevage. Mais là, véritablement, ce jour-là, j'ai compris que la question centrale, c'était celle de la souffrance animale et de l'exploitation qui était faite de l'animal par l'homme. Et véritablement, ça a changé, ça a déporté mon regard, ce que a sans doute vocation à faire la littérature aussi, quel que soit le sujet. Elle nous amène à poser un regard autre sur les choses, à dévoiler une vérité. Et effectivement, sans doute, la fiction en parallèle m'a permis d'appréhender autrement cette conviction-là qui naissait et de la développer.
Parce que vous y êtes véritablement confronté, le texte est grande précision. On a l'impression que vous avez vécu, que vous vous êtes fait agriculteur en ferme intensive, tellement les gestes, le quotidien de ces agriculteurs est rapporté. Au fond, le contenu de votre texte, c'est aussi ce que les hommes font dans une ferme intensive, enfin intensive en tout cas pour l'époque de 1980, ce qu'ils font de leur journée et comment ils le vivent. Outre, bien entendu, les liens familiaux, mais on les voit à la tâche, et vous nous faites ressentir tous les petits détails peut-être qui nous échapperaient. Par exemple, l'enjeu de l'odeur, j'ai envie de dire même, surtout l'odeur, vous y consacrez de longues pages, au fait qu'une des tâches quotidiennes, c'est de retirer la défécation des porcs, tout simplement, parce que sinon, l'élevage, justement, fourmillerait de détritus, de merde en fait, et que c'est pas sain du tout. Donc c'est cette tâche quotidienne harassante que vous nous faites vivre à travers ces personnages, parce qu'on a l'impression que ce qu'ils effectuent comme tâche, si on n'y est pas longuement préparé, ou si on n'est pas né dans ce milieu-là, des personnes citadines comme nous ne pourraient pas le faire. Ça serait vraiment un repoussoir très très grand.
Je pense que ce sont effectivement des métiers extrêmement éprouvants, qui mettent à l'épreuve le corps déjà, au quotidien, et qui mettent à l'épreuve aussi la morale. On le voit notamment avec les enquêtes qui ont été dévoilées concernant les abattoirs durant ces dernières années. Il y a quelque chose qui s'émousse aussi de l'éthique et du rapport à la morale dans le contact violent quotidien avec l'animal. Cela étant, j'ai l'impression encore de tâtonner dans l'écriture, de chercher une voie de texte en texte. Et plus j'avance, plus il me semble que je dois préférer le geste, le signe, à l'intériorité. Et j'aimerais peu à peu m'avancer, j'aimerais peu à peu pouvoir abandonner totalement la psychologie. Parce qu'il me semble que dans le geste et dans la sensation, puisqu'effectivement c'est aussi un texte dans lequel les odeurs sont présentes, les sens sont mobilisés, il est tout à fait possible de dévoiler, de suggérer quelque chose de l'intériorité des personnages, de ce qu'ils vivent, de nous engager aussi émotionnellement, sans pour autant avoir à pénétrer ces personnages et avoir à donner trop de clés. Je suis un lecteur de Cormac McCarthy, par exemple, et je suis toujours fasciné justement par cette écriture de l'extériorité, de la description, qui je trouve véhicule parfois plus même que qu'une écriture de la pensée, de l'intériorité. Ouais.
Oui, j'ai l'impression aussi que c'est une des grandes leçons de Pierre Guyotat, cet abandon de la psychologie qui passe par une description clinique, précise, et que le français est une langue qui le permet. Je vais lire cette première page d'une éducation libertine qui est votre premier livre. Il est coutume de dire que le premier livre, c'est l'entrée en littérature d'un auteur, mais vous étiez jeune alors, vous aviez 26 ans, mais sans doute été écrit quelques années auparavant. Et voici cette première phrase qui est magnifique. Dans cette géhenne, la chaleur de l'été collait au visage comme un masque, drapait les corps de feu, tirait les bêtes qui tentaient de survivre en quelques coins d'ombre, suffoquait les femmes aux poitrines poisseuses. Description de Paris au XVIIIe siècle. Ça, on est dans une sorte de récit qui pourrait être attribué à Pierre Guyotat. Ça fait vraiment penser aux premières phrases d'Éden, Éden, Éden, aux premières phrases de Tombeau. Et on est exactement dans ce que vous venez de dire, cet abandon de la psychologie.
Oui, même si, autant dans mes premiers textes, la psychologie, les quatre premiers, en tout cas la psychologie est quand même présente, mais en tout cas, Je sens qu'il y a eu l'émergence d'une volonté, d'une direction que je crois continuer de suivre et d'expérimenter. Alors effectivement, moi j'avais pas relu, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ou relu cette phrase, et je sens l'ascendance de la lecture qu'a pu être Éden, Éden, Éden. Dans ma jeunesse, et je me souviens de l'impression extrêmement puissante que j'avais eue à la lecture de ce texte, vraiment le sentiment de lire un texte fondamental, sans doute un des plus beaux livres que j'ai pu lire. Et il est vrai que dans ces textes-là, c'est le geste qui prime, et l'attention portée aux détails aussi. Pour parler de règne animal, j'aime bien souvent faire le parallèle avec la peinture de Bruegel. Et cette idée qu'on puisse avoir une vision d'ensemble et une émotion, un sentiment qui se dégage devant un de ces tableaux. Et en même temps, la possibilité aussi de pénétrer cette vision globale par le détail, en portant l'attention sur un des petits personnages du tableau, ou en regardant dans un coin, on va immédiatement voir apparaître un petit animal, et tout ça va nous conduire finalement à une autre lecture. Et je crois qu'effectivement, la langue française et la poésie sont des outils qui permettent comme ça de pénétrer le réel, de le restituer de manière autre et de le dévoiler finalement. Et j'aimerais poursuivre dans cette direction-là mon travail d'auteur.
Ce livre, Règne animal, on le lit aussi comme un réquisitoire puissant. On ne peut pas juste dire que c'est une littérature esthétique, parce que le texte est incroyablement esthétique. Il y a un enjeu moral, un enjeu éthique très très fort. C'est là où l'esthétique rejoindrait l'éthique. Ce réquisitoire peut être mis en parallèle avec Des fêtes des maîtres et possesseurs de Vincent Message, qui est sorti l'année dernière. Vous appartenez à la même génération d'écrivains. C'est deux méthodes différentes. Dans son cas, c'était aussi un acte militant. Ça faisait déjà des années qu'il avait réfléchi à cette question. Pour vous, ce que vous venez de me dire, c'est peut-être un peu plus différent. C'est aussi par l'écriture, vous en étiez un petit peu aperçu avant, et par l'écriture, la conscience est devenue plus pointue, plus aiguë aussi. Vous avez lu, j'imagine, son livre. Vous aviez déjà écrit le vôtre, j'imagine aussi, vu l'épaisseur de. Comment vous avez reçu son livre par rapport à votre expérience de l'écriture de celui-ci?
Je connais bien Vincent, c'est un ami, et cette discussion sur la condition animale, elle nous a déjà occupés pendant quelques soirées. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement plusieurs auteurs d'une même génération se soient emparés de cette thématique-là, qui il y a quelques années semblait encore accessoires en tout cas, ou dérisoires, n'avait pas lieu de citer dans la littérature, et d'ailleurs dans le débat public aussi. Donc je pense que là, il y a quelque chose d'assez révélateur. Ce qui m'a aussi interpellé, c'est que finalement, on a tous les deux choisi de déporter justement le regard, alors lui en utilisant le système de la contre-utopie. Et moi, dans une forme plus classique, qui est celle finalement de la saga familiale, du roman historique, mais tout de même en utilisant une forme d'hyper-réalisme ou d'hyper-naturalisme. Donc avec cette idée comme ça de parvenir à déporter le regard pour réveiller à nouveau l'attention, que ce regard soit neuf en tout cas. Et je pense que, en tout cas, j'ai acquis véritablement la certitude que dans cette domination de l'homme sur l'animal se trouve sans doute une forme de violence primitive qui, par extension, s'est déportée et étendue étendue plus que déportée d'ailleurs sur l'ensemble du vivant et en particulier sur nos semblables. Et qu'en questionnant ce lien de l'homme avec l'animal, cet asservissement systématique, on questionne aussi tout notre rapport à l'autre et notre rapport au vivant.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Delamo.
Merci à vous.